Bonsoir à tous. Je crois que le micro marche moyennement. Vous le savez, c'est l'effet placebo, mais on parle quand même aussi. Ça marche un petit peu.
Voilà. Ça marche mieux quand on
Ça marche en plus quand on arrive, c'est sûr. Mais jusqu'à présent, ça ne marchait pas là-haut.
Oui.
Ici, ça marche. Très bien. Parce que moi, je dis ça marche, je ne dis pas ça fonctionne. Je dis ça marche. Belle image. Alors, c'est une année sous le signe de la marche. Bienvenue à tous à Saint-Eustache, dans cette salle des colonnes que vous connaissez bien, que j'aime beaucoup, qui est typique de cette architecture de la fin du 18e, et ça a servi de sacristie, c'était l'ancienne sacristie. Il faut imaginer des boiseries avec tout le mobilier qu'on trouvait dans les sacristies, les chapiers, les chaises oubliées, etc. Tout ça devait être verni et tout à fait... digne de sa fonction liturgique. Nos rencontres, nos 8 rencontres habituelles pour ce voyage biblique auront lieu ici à chaque fois. Voilà. Donc pour des raisons qui sont liées aux normes de sécurité et puis aussi parce que la paroisse Saint-Eustache a un peu investi pour insonoriser la salle. Vous vous souvenez qu'à un moment on ne s'entendait plus, ça résonnait beaucoup. Donc il y a des pièges à son, il y a des tissus qui absorbent, etc. Ce sera chauffé en hiver et l'éclairage est un petit peu, peut-être un peu gloomy, comme on dit en anglais. Le curé a compris ce que je voulais dire par là, je n'étais pas sûr du mot, mais voilà, j'espère que ça ne va pas vous endormir et en tout cas, ça nous incitera à la tonicité. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Vous vous souvenez peut-être de ces premiers vers de l'invitation au voyage de Baudelaire. Alors c'est une invitation au voyage, une invitation au voyage et une invitation à un parcours biblique sous le signe précisément de la marche, de l'envoi, du pèlerinage et du voyage, de la quête. Alors pour un breton comme moi, c'est vrai que la quête du Graal, c'est quelque chose qui est mobilisateur, ça fait image, mais je dirais que dans le monde méditerranéen, le monde de l'Odyssée, le monde d'Abraham, le monde du Proche-Orient, évidemment, le voyage, l'idée qu'on ne s'installe pas, qu'on ne s'embourgeoise pas, mais qu'on avance, qu'on est d'autant plus aimanté par quelque chose que précisément on se détache du trop visible, de ce qui sature notre espace, notre environnement, pour justement nous laisser saisir par un invisible. Aussi illusoire qu'il puisse paraître d'ailleurs, parce que c'est ça la folie de la foi. Kierkegaard l'a bien montré lorsqu'il parle d'Abraham, lorsqu'il montre que Abraham est le père des croyants précisément parce qu'il fait ce pari sur l'invisible. Il se met en mouvement. Et c'est précisément par le personnage d'Abraham que nous allons commencer cette année. Donc vous connaissez nos traditions, nous nous rencontrons 8 fois dans l'année, à peu près une fois par mois, autour d'un thème. Je commence ma septième année avec Marc Pernaud, et c'est une grande joie. Lui est un vieux briscard de cette formule du groupe écuménique biblique, et nous avons abordé, et je le dis pour ceux qui nous rejoignent, nous avons abordé des thèmes aussi divers que la filiation, la paternité, la liberté, la foi,
la
violence,
manger et boire l'an dernier, la joie, le bonheur et le plaisir il y a quelques années. Voilà, il faudrait d'ailleurs que je mette un peu d'ordre dans mes souvenirs, parce que finalement, on s'aperçoit qu'à force de traverser les massifs et les corpus bibliques, on finit effectivement par engranger un certain nombre, non pas de savoirs, mais de saveurs, j'ai envie de dire. Alors, cette année, c'est le thème du voyage, parce qu'on s'est dit, Marc et moi, que au fond, bien souvent, la recherche spirituelle, c'est la recherche d'une sorte de havre, de port, de quelque chose de définitif, quelque chose de stable, parce que nous trouvons nos vies remuantes, nous trouvons nos vies peut-être quelquefois épuisantes à force voilà, de se dépêcher, de devoir répondre à des contraintes que nous ne choisissons pas, qui nous sont plus ou moins imposées, et vis-à-vis desquelles nous sommes parfois aussi des esclaves plus ou moins consentants. Il y a aussi cette servitude volontaire à un agenda quelquefois trop plein. Voilà, nous sommes souvent dans un mouvement qui n'est pas forcément précisément aimanté, comme je le disais tout à l'heure, ou polarisé par quelque chose ou par quelqu'un. Et nous aspirons finalement à quelque chose qui serait de l'ordre de la permanence, de l'ordre de la stabilité, de l'ordre de l'immobile peut-être, hein, avec ce que ça peut avoir d'ailleurs d'un peu mortifère de chercher l'immobilité. Eh bien, la quête philosophique, Platon par exemple, Platon a opté pour cette permanence des choses, ce qu'il appelle le monde des idées. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde d'ombre, d'apparence, d'illusion, mais il y a un monde des idées qui est le monde des essences et qui est un monde rassurant à ce titre parce qu'il a une consistance intellectuelle, c'est le monde intelligible, alors que nous sommes dans le monde sensible. Ça, c'est la pensée grecque. Eh bien, la pensée biblique n'est pas comme ça du tout. Elle est en mouvement et c'est très bien. Les gens voyagent, les gens se déplacent. Jésus, nous le verrons évidemment assez vite au cours de l'année, s'est beaucoup déplacé. C'était un rabbin ambulant. Il allait de ville et de bourgade en bourgade et il a traversé ce que nous appelons la Terre Sainte plus d'une fois. Et l'Évangile, d'ailleurs, a soin de mettre en avant cet aspect un peu voyager, cette condition voyagère, comme disait Bérulle au XVIIe, j'aime beaucoup ce mot, cette condition voyagère de l'homme, cette condition pèlerine de l'homme Jésus, mais aussi de l'homme biblique en général. Comme si finalement, le but du voyage, c'est pas tellement d'arriver à un endroit où enfin on se repose dans une oasis de fraîcheur, mais au contraire, dans l'Exode lui-même, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la libération et de la fidélité profonde. Voilà, donc bienvenue à bord de cette croisière qui va durer quelques mois jusqu'à la fin de l'année, et fidèle à notre habitude, nous allons aller, quelquefois vous savez, nous faisons des va-et-vient, Ancien Testament, Nouveau Testament. Ici, je crois que on suit plutôt la chronologie biblique et nous nous retrouverons au mois de mai avec l'Apocalypse. Voilà, ce qui est quand même un cap qu'il nous faudra tenir. Bien. Je vous ai mis un petit texte de présentation sur le livret et nous commençons tout de suite avec la Genèse et avec évidemment le voyage d'Abraham. Et bienvenue à toi Marc, bienvenue à vous tous.
Oui, donc bienvenue à vous tous et grand merci Jérôme pour cet accueil et puis pour ce travail commun qui est tout à fait, pour moi en tout cas, tout à fait inspirant, je dois le dire, par ta culture et puis tes références littéraires en particulier. Et c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'enrichit beaucoup. Alors oui, à travers cette histoire d'Abraham, ça nous invite au voyage. C'est bien connu avec ce début « va », donc le « ler lera », bien connu de la Torah, finalement. Alors est-ce qu'on ne surinterprète pas trop ces textes? Mais en fait, on dit en général, en fait, c'est ce qu'on dit aux enfants, j'allais dire des catéchismes, les premiers chapitres jusque-là, en fait, jusqu'au chapitre 11, c'est des grands mythes, avec le Adam et Ève et le serpent qui parle, avec Caïn et Abel, avec Noé, avec la tour de Babel, et puis on dit, ah voilà, là on entre dans l'histoire avec Abraham. Franchement, j'y mettrai pas ma main à couper. Est-ce que c'est historique? À mon avis, c'est plutôt une sorte de personnage tutélaire que les Hébreux se donnent pour se donner un ancêtre commun et donc pour se donner une origine et une fraternité dans leur peuple. Bon, alors en fait on n'en sait rien, si vous voulez, parce que souvent dans les textes bibliques, ça arrive souvent, par exemple pour Jésus, évidemment les évangiles c'est un récit. C'est aussi un récit en grande partie figuré, au sens figuré, Mais il y a évidemment une base historique fondamentale. Il y a eu un monsieur Jésus. Alors qu'est-ce qu'il y a eu un monsieur Abraham? À mon avis, il n'y a pas eu de monsieur Adam et de madame Ève. C'est des figures de la personne et de la vie humaine. Pour Abraham, c'est discutable. Mais finalement, pourquoi pas? C'est pas impossible. Sauf que bon, dire ce genre de questions, je veux dire, c'est pour dire que ça ne nous fait pas peur. C'est, on peut poser tout à fait la question. De toute façon, c'est pas Abraham qui a écrit comme ça. Parce que si Abraham a existé comme personnage historique, à cette époque-là, l'hébreu n'existait pas, de toute façon. Donc, c'est comme de dire, ta fameuse légende du Saint Graal, elle n'a pas été écrite, c'est quoi, c'est Chrétien de Troyes ou je sais.
Oui, ça n'a
pas, pas été écrit au XXIe siècle. Quand on voit la langue, si vous voulez, non. C'est carrément le Moyen-Âge, ça ne ressemble pas. Et ça ne ressemble pas à du français du XXIe siècle. Donc on sait bien que ce texte, ce n'est pas un verbatim de ce qu'elle lui a dit Dieu et de ce qu'Abraham a répondu. De toute façon, ça a été rédigé. Et ça a été rédigé, manifestement, ben pour être lu, pour qu'on l'interprète. C'est pour qu'on l'interprète pour nous. Et par exemple, c'est comme ça, si vous voulez, que les juifs, les chrétiens et les musulmans le lisent, puisque c'est des textes qui sont communs aux trois traditions, aux trois cultures monothéistes, finalement. Mais par exemple, ce qu'on dit, par exemple, de Paul dans l'Épître aux Galates, hein, ce sont ceux qui ont la foi qui sont enfants d'Abraham. Donc ça veut bien dire que la question n'est pas une question de sens, n'est pas une question d'histoire, c'est une question de foi. Et donc en lisant ce texte, il est question de la foi, il est question d'une façon d'être avec Dieu qui nous est proposée pour qu'on s'en inspire et que ça féconde notre existence. Donc finalement, qu'importe si il y a un personnage historique derrière, c'est en tout cas une histoire qui nous est donnée pour qu'on s'en inspire du côté de la foi. Alors, de la Bible est extrêmement pluraliste, enfin pas extrêmement, mais en tout cas profondément pluraliste. Il y a différents courants théologiques, spirituels, et différentes conceptions de la vie humaine et de la relation de la personne avec le monde, avec les autres, avec Dieu. La façon qui est mise en scène ici, finalement, dans ce récit, par exemple, est quand même assez proche, dans le même courant un peu que les évangiles, j'allais dire, quelque chose qui est de l'ordre d'une grâce qui est donnée sans condition. Nous allons le voir dans ce texte, quand on va le lire, vous pourrez y faire attention. Il n'y a pas marqué « si tu es bien sage, tu seras béni », il y a marqué « la bénédiction est donnée a priori », comme une promesse, comme une vocation, comme un envoi en mission. Donc oui, manifestement dans ce texte, le voyage est quelque chose d'important. Et ça, c'est tout le long du texte, il y a des mises en route, des voyages, des étapes. Et ça présente, dans ce texte qui est vraiment, je dirais, vraiment fondateur, fondamental, hein, ça présente aussi une conception, comme le disait Jérôme, de la vie humaine. Vous verrez, mais peut-être que s'il n'y avait que cette notion de voyage, ce serait un salut très individuel, vous voyez ? On va se sauver en se mettant en route. Oui, c'est une dimension, évidemment, fondamentale. Et là, la dimension individuelle est très, très importante. Il y a un monsieur, une personne, Abraham, puis ensuite on voit, c'est un couple, en fait, Abraham, Sarah, qui sont ensemble et qui vivent une aventure, c'est le cas de le dire, dans différents sens du terme. Donc ça pourrait sembler très individuel, si vous voulez, s'il n'y avait que la notion de voyage. Mais on va le voir, cette notion de voyage, elle s'intègre avec d'autres grandes notions, la notion de génération, de fécondité, de stérilité. Et là, je crois que ça aussi, c'est une sorte de voyage, finalement. C'est un voyage, finalement, où on se projette dans un futur, hein. Pas simplement dans un espace ou dans une mobilité intellectuelle, spirituelle, théologique, mais on se projette dans le temps, dans quelque chose qui nous dépasse, qui nous survit. C'est pas forcément la fécondité en faisant des enfants, c'est une fécondité plus ample et plus diverse selon les individus, les personnes. Donc ça, c'est une autre notion qui va s'articuler. Et puis une troisième notion qui me paraît absolument fondamentale au cours de ce texte, c'est celle de bénédiction. de bénédictions reçues, de bénédictions données. Et donc ça, peut-être il faut rappeler, mais je l'ai déjà dit 20 fois dans ce groupe, donc peut-être c'est, ça lasse un petit peu, mais il faut quand même, à mon avis, le rappeler, en tout cas pour les nouveaux, et sans rappeler, j'allais dire, pour le vivre. Bénédiction, c'est pas seulement dire du bien, comme ça pourrait, comme le mot français ou latin pourrait le laisser penser, mais bénédiction, dans l'hébreu de ce texte, c'est beroka, c'est le même mot que le genou, en fait, et donc c'est une mise en articulation. Une mise en articulation avec Dieu, où Dieu, voilà, il y a une articulation qui se fait entre Dieu et la personne humaine, ça, effectivement, c'est la foi, c'est la grâce première et la foi. C'est l'attachement à Dieu, on le voit à travers des moments de louange qu'a Abraham, on le voit avec Dieu qui parle, on voit avec Dieu qui s'attache effectivement aux pérégrinations diverses et variées d'Abraham et Sarah, malgré leurs aventures, un poil scabreuse quand même. Et puis on le voit qu'Abraham, il a la vocation, c'est aussi un voyage, la vocation, et il a la vocation d'être bénédiction. Et donc c'est une bénédiction pour d'autres, pour des personnes diverses, de peuples divers et des générations futures. Donc là aussi c'est une mise en voyage, c'est une genèse de la personne, c'est une bénédiction, une articulation avec Dieu, mais c'est quelque chose qui fait de nous une bénédiction, c'est-à-dire qui s'articule avec les autres. Et donc c'est un voyage aussi à travers des relations. Donc oui, je crois que ce voyage auquel nous invite ce texte, c'est quelque chose qui mérite d'être milité personnellement pour voir à quel voyage nous sommes appelés, parce que c'est une vocation personnelle, et puis rendu possible voilà, par la bénédiction de Dieu, par ce Dieu qui nous rejoint. Alors, peut-être on va lire un petit peu.
On va lire la fin du chapitre 11. Et ensuite, on regardera de près le chapitre 12, qui est évidemment beaucoup plus connu. Mais vous savez, on croit toujours que l'histoire d'Abraham commence au chapitre 12. Souvent, d'ailleurs, dans les parcours de catéchèse, on apprend ça aux enfants. Hein. Le chapitre 12 de la Genèse, c'est la fin des grands récits de création. Donc, c'est l'alliance avec Adam et l'alliance avec Noé, hein, les deux premières alliances, les deux premières grandes bénédictions. Et puis, au chapitre 12, on entre enfin, comme disait Marc, on entre dans des récits plus historiques, etc. Mais en fait, si on regarde bien, la vie d'Abraham commence déjà au chapitre 11. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que Marc disait effectivement, ça n'est pas un hébreu, il vient de Our. Our, en Chaldée, c'est au sud de l'Euphrate. C'est même plus à l'est que Babylone. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment l'oriental. Hein. C'est un païen, c'est un idolâtre. Aujourd'hui, on connaît bien les Chaldéens. Vous savez, l'église chaldéenne, on en parle beaucoup, puisque c'est l'église majoritaire en Irak. Eh bien, les Chaldéens, on les a reçus d'ailleurs ici pour une liturgie, se réclament et se disent descendants, précisément, d'Abraham, d'une certaine manière. Ils se disent descendants de ces clans de Bédouins qui s'étaient installés autour de cette ville d'Our. Donc effectivement, ce n'est pas un hébreu, c'est encore moins un juif au sens étymologique, puisque ce n'est pas un judéen. Et évidemment, on est avant la Torah, hein, on est avant Moïse, donc il n'y a pas de Torah, hein, il n'y a pas de loi. Donc si on est avant la loi, on n'est pas dans le judaïsme historique. Donc Abraham est une figure assez universelle, mais sa généalogie qui apparaît, qu'on va lire dans cette espèce de texte qui est une sorte de sommaire généalogique, en fait, sa généalogie le greffe, si vous allez voir dans la Bible, à la généalogie de Sem. Sem, Cam et Japhet, vous avez les fils de Noé. Voilà. Et donc, il est sémite, au sens, en tout cas, de la Bible. Moi, je ne vais pas faire d'anthropologie, encore moins de théorie raciale, évidemment, mais vous voyez bien que pour l'auteur biblique, il y a cette volonté d'inscrire quand même Abraham, si oriental qu'il soit, de l'inscrire dans une généalogie mythique qui le rattache à Sem, contrairement aux Cananéens, hein, à la terre de Canaan, qui se réclament de Cam, le fils maudit. Voilà.
Mais c'est probablement écrit quand même assez tardivement.
Ah ben bien sûr.
Il est au début. Ah
ben, évidemment.
Il est au début du bouquin, mais c'est un texte qui a été écrit quand même assez, je dirais, beaucoup plus, c'est beaucoup plus moderne que des textes comme le Deutéronome, par
bien
exemple,
sûr.
Comme les psaumes, où effectivement. Par exemple, dans des psaumes, il y a beaucoup de psaumes qui ne sont pas monothéistes, par exemple, qui sont, on dit, énothéistes, c'est-à-dire avec... Il y a plein de dieux, et puis Dieu, mon Dieu, il préside l'assemblée des dieux. Ou bien il y a des passages... Voilà, donc il y a des passages beaucoup plus archaïques que ça.
Je voulais dire que l'auteur fait un peu comme Virgile avec l'Énéide. C'est-à-dire, lorsque Virgile écrit l'Énéide, sous l'empereur Auguste, c'est pour donner un récit de fondation, pour donner un récit des origines à Rome. Évidemment, Énée est un personnage mythologique, mais il y a cette volonté idéologique et politique d'inscrire l'histoire dans une origine. Voilà. Et ça n'est pas forcément d'ailleurs, comme on voudrait le croire, une espèce de mensonge ou de manipulation idéologique du matériau historique, parce qu'ils n'ont pas le même rapport à l'archéologie que nous. Pour eux, il y a quelque chose qui est de l'ordre du symbole, c'est-à-dire de montrer que Abraham s'enracine dans la grande histoire humaine qui le rattache à Adam. Voilà.
Oui,
mais
quand on raconte,
évidemment,
quand on raconte le loup et l'agneau, c'est pas un mensonge. On dit quelque chose avec un style littéraire, c'est la même chose.
Absolument.
Peut-être donc, il faut lire jusqu'au verset 5.
Il faut lire
jusqu'à 5, non ?
Oui, en tout cas, à mon avis, toute la fin du chapitre 11. Si, Guillaume, si tu veux bien.
Alors, Guillaume. Voici la famille de Théra. Théra engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Théra, dans le pays de sa famille, à Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai, et celle de Nahor, Milca, fille de Haran, père de Milca et de Miska. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils habitèrent. Théra vécut 205 ans. Et il mourut.
Voilà. Alors, c'est la généalogie d'Abraham. Souvent, ce genre de texte, on les trouve un peu fastidieux, donc on les saute, on les lit pas, on les entend très peu. C'est pourtant très intéressant de voir, en particulier, que ce que l'on croyait être tout à fait original, c'est-à-dire le voyage d'Abraham. Vous savez, Abraham qui quitte Ur, etc. Mais en fait, son père a fait la même chose. Et souvent, on oublie ça. Et souvent, on ne le sait même pas. Aux enfants du Caté, on apprend qu'un jour, Dieu parle à Abraham, et Abraham quitte tout, et hop, il part en Canaan avec toute la maisonnée, et on présente ce geste comme un geste absolument fondateur. Hein. L'irruption de Dieu dans la vie d'Abraham est à l'origine, on est dans quelque chose qui est absolument et radicalement neuf. On est dans, effectivement, l'intervention du divin dans la vie d'un homme, etc. Or, si on regarde dix versets en amont, ben on voit que son père a fait la même chose. Et c'est très intéressant parce que son père ne l'a pas fait du tout de la même manière. Son père n'obéit pas à une injonction divine ou à un appel ou à une vocation ou à quelque chose de plus secret. Et on voit bien que ce qui est assez frappant, c'est la dimension d'emprise que ce père, qui s'appelle Théra, a sur son clan familial. Regardez, il prit son fils, son petit-fils, fils de Haran, Sabru, Sarai, femme, etc. En hébreu, vous avez toute une suite de, comme ça, de possessifs. Donc on a l'impression d'un clan où les personnes ne sont pas autonomes, au fond, hein, pour le dire dans un vocabulaire moderne, où les personnes n'ont pas encore accédé à un statut de sujet. C'est peut-être un peu psychanalytique ce que je dis, mais on a l'impression d'une famille où les personnes sont finalement étouffées. Il y a quelque chose de fusionnel dans cette famille, il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise du père sur les fils. Il y a quelque chose finalement d'assez mortifère. D'ailleurs, on parle de mort à deux ou trois reprises, puisqu'on dit que le père de Lot est mort, on dit que Sarai est stérile, qu'elle n'avait pas d'enfant, etc. Donc on a l'impression, quand on regarde ce texte qui a l'air tout à fait anodin, qui a l'air tout à fait banal, on a l'impression quand même d'une sorte de famille qui est bloquée, si vous voulez. Il y a quelque chose là dans cette généalogie d'Abraham par son père Théra, où finalement l'interdépendance des personnes entre elles fait qu'on a une sorte de bloc où la vie ne circule plus. Et précisément, ce que va débloquer la vocation d'Abraham au chapitre 12, juste après, c'est ce jaillissement de vie, ce que Marc appelait la bénédiction, hein. C'est cette ouverture tout d'un coup à la vie qui va faire que cette espèce de bloc où tout le monde dépend de tout le monde, où tout le monde connaît un peu tout sur tout le monde, vous savez, comme dans certaines séries américaines, dans Dallas, je me souviens de ça, il y avait des relations au sein de la famille où il n'y a plus aucun espace privé, où il n'y a plus aucune initiative laissée au sujet, mais où on a l'impression ici que c'est le père qui décide, hein, et qui emmène avec lui tout son monde, comme si finalement il avait une sorte de mainmise et qu'il pouvait agir au nom de l'intégralité du clan. C'est précisément ça, à mon avis, qui va être un petit peu perturbé par la vocation d'Abraham.
Oui, alors, c'est vrai que, en fait, Théra commence ce voyage, et il a le projet, d'ailleurs, hein, c'est marqué, ils partent pour aller au pays de Canaan, mais en fait, ils s'arrêtent à Haran, c'est-à-dire qu'il y a ce projet, ils font un petit bout du trajet, et puis ils arrivent là en panne, et puis ils meurent sur place. Et donc, finalement, je dirais que c'est formidablement sympathique, parce qu'effectivement, Théra, il a ce projet, oui, mais Dieu, ce que va faire Dieu, c'est qu'il va donner la possibilité, finalement, eh bien, que ce projet s'accomplisse, et que s'accomplisse dans la bénédiction. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu qui est dictatorial en disant, voilà, le chemin, le plan que j'ai pour toi, et pour ta famille et tes descendants. Il y a un projet, finalement, de Théra, comme tu dis, avec une emprise formidable, c'est-à-dire qu'il prend l'acar, c'est vraiment prendre comme on prend un objet, en fait. Il part avec ses bagages, avec ses possessions, que sont sa tribu, son fils, sa femme. Abraham fait un peu pareil au début, mais avec sa femme, mais bon. Et on rompt pas avec les vieilles habitudes tout de suite, ça lui mettra du temps d'y arriver. Mais Dieu va permettre, je dirais, de prolonger effectivement le projet et de pas de le prolonger simplement que le fils accomplisse le projet du père, mais de le faire dans une fidélité toute personnelle finalement, que ça soit à la fois un prolongement de ce projet familial d'aller à Canaan, mais en même temps tout personnel. Et donc je crois que du coup, comme tu le disais, quitte pour aller vers Canaan, mets-toi en route vers Canaan, ça s'articule bien aussi avec quittant ta famille et la maison de ton père. C'est à la fois les deux, si vous voulez, c'est à la fois prolonger et accomplir le projet par fidélité aux générations passées, mais en même temps c'est le faire d'une façon personnelle, et c'est le faire en montant sur les épaules des générations passées. Et ça, je crois que c'est une sorte de double fidélité qui n'est pas forcément comprendre, qui n'est pas qui n'est pas facile à comprendre à l'adolescence, finalement, si je puis dire. On a envie, ou les enfants, à quel âge ils disent non. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, et toi, tu n'en as pas tellement non plus, mais à vers 5 ans...
C'est 3-4 ans.
2 ans.
Oui, après 2 ans.
Ils apprennent à dire non. On est très content parce que ça veut dire qu'ils commencent à avoir une personnalité, à s'affirmer. Il y a une autre crise d'adolescence, peut-être, je ne sais pas, ça dépend des gens, il n'y en a pas forcément, 14-15 ans. Mais après, finalement, on peut peut-être, en grandissant, on finit peut-être par avoir à la fois cette double fidélité au meilleur des générations passées, parce qu'il n'y a du pas bon non plus dans la génération passée, bien sûr, hein, tout est mitigé, mais aussi de le faire dans la bénédiction, de le faire accompagné par Dieu, et de le faire d'une façon tout à fait personnelle et authentique et sincère. Et je crois que c'est un peu là quelque chose qui va se dire et qui est bien mis en relief, comme tu le disais, Jérôme, par la fin du verset 11, qui est du chapitre 11, qui permet de comprendre dans quoi s'inscrit le verset, un des versets les plus connus de la Bible, là, qu'on va attaquer maintenant. Donc voilà ce voyage.
Oui, alors juste une chose, parce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, que lorsqu'on relit les textes bibliques, et en particulier les textes très connus, quelquefois on a une expérience qui est un peu humiliante d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des tas de choses qu'on n'avait pas vues. Il y a une dimension vivante en fait dans les textes bibliques, c'est pas un corpus mort, et on a toujours tendance à croire, ça c'est la paresse spirituelle, c'est de croire que ce sont des corpus qui sont figés, si vous voulez. C'est le risque peut-être dans certaines traditions, hein, par exemple la tradition musulmane a un gros effort à faire justement pour rendre vivant le Coran, pour que effectivement la lettre ne tue pas l'esprit. Mais quand on lit d'une certaine manière, ce qu'on fait dans la Lectio Divina par exemple, quand on lit de manière vivante la Bible, il y a quelque chose de tout à fait stupéfiant, c'est-à-dire ça n'est plus de la littérature fossilisée, ce que ça menace toujours d'être, hein, d'une certaine manière, parce que voilà, on y accède à travers des traductions qui peuvent être un peu datées, qui peuvent être un peu, voilà, il y a des traductions en français qui sont un peu kitsch, qui sentent un peu l'hypocagne, quoi. Enfin, mais c'est vrai. Effectivement, quand on essaie de revivifier ces textes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jaillissement, quelque chose de l'ordre du puits, le puits de Jacob. Hein. On se retrouve, comme dit Jésus, sous le figuier. On se retrouve à l'école de textes incroyables. Justement, je voulais vous parler d'un livre, je comptais en parler juste à la fin, que j'ai redécouvert, qui s'appelle « L'énergie de la parole biblique ». Je vous donnerai les références tout à l'heure. Il y a une énergie dans la parole biblique. Et si je fais ce long détour, c'est que précisément, ces 10 lignes qu'on vient de lire, qui ne ressemblent à rien, qui sont vraiment, enfin, qui nous semblent être une transition, comme on dit, vous savez, dans les dissertations, les transitions qu'il faut faire entre les paragraphes, il y a quand même des choses étranges. Par exemple, je me suis rendu compte que Abraham a 2 frères. Alors ça, je savais, parce que je suis, j'ai une bonne mémoire, mais enfin, ça ne me servait pas à grand-chose. Et je vois qu'ils s'appellent Nahor et Haran. Et on vous dit que Haran meurt avant son père. Donc vous voyez, il y a une histoire de mort déjà dans cette famille. Et à la fin, regardez, Théra vécut 205 ans et il mourut à Haran. À Haran, avec 2 R. Donc il y a un jeu de mots, évidemment. Dans la Bible, il y a sans cesse des jeux de mots, sans cesse. Et on passe à côté de plein de choses, parce qu'on, nous, on ne perçoit pas les jeux de mots. C'est comme chez Shakespeare, il y a plein de jeux de mots, et puis on passe à côté. Et il est évident, ici, que s'il meurt à Haran, qui est le nom de son fils, c'est qu'il y a vraiment un gros problème dans cette famille. Il y a une névrose collective qui fait qu'il y a quelque chose qui est entravé. Hein, ça ne circule pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a trop de petits signes. Voilà, parce que si on prend les signes individuellement, c'est pas bien méchant. La stérilité d'une femme ne place pas la femme du côté de la mort, par exemple. Mais quand il y a plein comme ça de petits signes, on voit très bien que l'écrivain biblique veut nous montrer, mais sans le dire par A plus B, vous voyez, parce qu'il est élégant. Il ne veut pas dire, attention ici, grand A, petit A, la mort dans la famille d'Abraham. Non, il le dit de façon narrative. Donc à la limite, celui qui n'a pas envie de voir, il ne voit pas. Hein. Oui.
Émile K aussi est la nièce de
Oui, alors c'est ça, il y a une consanguinité, voilà. À un moment d'ailleurs, Sarah est présentée aussi comme sa sœur. Oui, mais ça c'est lui qui le dit, mais aussi il me semble à un moment elle est présentée comme étant de sa famille. Voilà.
Oui, mais c'est vrai que le texte biblique, en fait, c'est que tu disais le puits de Jacob. Justement, Jésus, il dit, mais en fait, voilà, le puits de Jacob, c'est limité. C'est-à-dire qu'on va puiser dans une réserve de connaissances qui viennent des pères. Et Jésus promet que ça deviendra une fontaine d'eau vive qui jaillit dans notre sein. C'est Jean 4. Oui. Donc, vous voyez, ça, on passe au changement de registre. Donc, le but, c'est qu'il y ait un jaillissement à l'intérieur de nous de paroles de Dieu, de bénédiction, et pas simplement d'aller puiser dans un réservoir avec un dos un peu croupissante qui serait un réservoir de connaissances qu'il faudrait apprendre à déchiffrer avec une interprétation qui serait la bonne et qu'on pourrait marquer dans un catéchisme. En fait, ces textes bibliques, c'est un peu comme pour Socrate, c'est une maïeutique, c'est-à-dire c'est fait pour nous accoucher de nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait ce qui est marqué ici, parce qu'il y a marqué « va-t'en » au début du texte qu'on va lire, mais où part, il y a marqué part. Là, dans la traduction, c'est quand même extrêmement pauvre, alors que nous savons que les Juifs, effectivement, utilisent la phrase hébreu, lech lecha, qui veut dire va pour toi, ou va vers toi. Et donc la question, c'est de partir en voyage pour toi, pour que nous puissions vivre cette genèse, vivre ce cheminement. Mais personne ne peut le vivre à notre place. Donc la question, et puis vivre, va vers toi, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas nous formater et qu'on devienne à son image, au sens où on serait placé dans une sorte de moule à gaufre, où paf, ça fait une gaufre, ou alors les pièces de monnaie, on espère qu'elles vont avoir la forme du moule, quoi, vous voyez. C'est pas ça la question. La question, c'est cette sorte de genèse, d'épanouissement, d'élévation qui fait qu'on va devenir nous-mêmes dans ce voyage. Et la Bible est faite pour ça, c'est-à-dire elle est faite pour que dans la méditation de ces écritures, une méditation en même temps intelligente, bien sûr, avec la réflexion, avec la connaissance de ce que veulent dire les mots, les phrases, les trucs, c'est là que le dialogue entre nous peut y aider aussi, mais c'est aussi la lecture priante qui fait que ce texte va venir interagir avec ce que nous sommes aujourd'hui pour que nous devenions un nous-mêmes un peu plus créé, un peu plus évolué, un peu plus élevé, un peu plus approfondi demain. Donc c'est une maïotique en fait ce texte. Ces textes sont faits pour nous accoucher. Alors peut-être qu'il faut lire quand même maintenant.
Voilà le grand texte alors. Voilà,
the grand texte.
Ah oui, rideau, roulement de tambour.
Alors c'est de 1 à 5. Alors là il y a un sous-titre en fait qui s'est mélangé avec, il y a marqué Abraham, Canaan et en Égypte. En fait c'est Abraham, c'est le titre qui est venu au milieu.
Ah,
donc
bon,
c'est, vous verrez après que voilà, il y a Abraham, Canaan et en Égypte. C'est Abraham en Canaan et en Égypte, c'est le titre du paragraphe qui est rentré dedans.
Oui.
Donc il faut lire jusqu'à la fin du verset 5 peut-être, ce grand texte qui est... effectivement,
la vocation,
l'envoi en mission, ou alors, même on peut lire jusqu'au... Bon, on peut déjà commencer avec ça, non ?
Une dame ?
Est-ce qu'il y a une dame qui veut bien nous lire un petit peu les versets 1 à 5 du chapitre 12 ? Ah, merci beaucoup.
Le Seigneur dit à Abraham... Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Ils partirent pour le pays de Canaan. Abramène, Canaan...
Oui, alors c'est ça qu'il faut...
Faut régler.
Oui, c'est Abraham en Canaan, en Égypte, c'est le titre en fait, oui. Oui, oui.
Donc, ils arrivèrent au pays de Canaan.
Voilà, c'est parfait. Donc là, effectivement, c'est un des plus grands textes. Et c'est vrai que c'est un texte absolument magnifique. Alors quand il y a marqué le Seigneur en capitale comme ça, vous savez que c'est Yahou, c'est le nom de Dieu qui se prononce Yahou, on le sait, puisqu'il y a des noms qu'on appelle, je sais pas, Théophore, hein, c'est-à-dire comme Nathan Yahou, c'est Dieu donne. Donc on sait que ça se prononçait Yahou, les Juifs ne le prononcent pas par respect pour Dieu, par volonté justement de ne pas mettre Dieu en fiche. Et enfin, il ne le prononce plus, en fait, puisque à l'origine, il le prononçait tranquillement. C'est un mot qui est sur la racine du verbe être et qui veut dire « je suis, je serai ». L'Apocalypse le traduit par « celui qui est, qui était et qui vient ». Donc c'est assez beau, c'est une vision assez dynamique, assez... Alors, en général, il y a dans la Bible, il y a ce... Alors là, ils ont mis le Seigneur, parce que comme les Juifs ne le prononçaient pas à l'époque du Second Temple... Et en particulier à l'époque de la traduction de cette Bible d'hébreu vers le grec, du temps d'Alexandre le Grand, quoi, je ne sais pas, en moins 300, dans cette traduction grecque, ils ont traduit donc Yahou par Kurios, hein, alors, ou par Adonai. Non, Adonai, c'est. Non,
c'est en hébreu, oui, oui.
C'est en hébreu, mais. Oui, ça doit être Kurios.
Kurios, oui, oui.
Et donc, du coup, c'est mis le Seigneur. Bon, eux, ils disent effectivement, à cette époque-là, en hébreu, ils le lisaient quand ils étaient sur ce mot, Yahou, ils disaient Adonai, le Seigneur, ou bien ils disent Hachem, le nom, du même nom que Shem, d'ailleurs, hein, le fils de Noé. Mais c'est, en fait, c'est Yahvé, quoi, c'est Yahou, c'est une figure de Dieu qui est quand même celle, plutôt, de la tendresse maternelle, qui est celle du pardon, qui est celle de l'affection, qui est celle d'une bonté, en fait. Alors que quand il y a marqué Dieu, elle, Elohim en hébreu, un Dieu pluriel, un Dieu, ou plutôt un Dieu qui récapitule tous les dieux, j'allais dire, eh bien, c'est plutôt un Dieu fort. Donc là, vous voyez, celui qui parle, celui qui nous met en route, ben, c'est un Dieu de tendresse, en fait, c'est un Dieu de pardon. Et c'est peut-être ça qui nous permet de nous mettre en route, c'est que le pardon est premier. C'est pas le Dieu fort, le Dieu macho, vous voyez, qui dit voilà, ma volonté, c'est avant cela, et puis ça va aller, si tu suis pas ça, ça va chauffer pour ton matricule. Non. Pourtant, il saurait le dire, parce qu'au verset 3, ça y est, un petit peu, mais c'est pour ceux qui seront soit avec nous, soit contre nous. Enfin, c'est pas ceux qui seront avec nous, ceux contre nous, c'est ce qui pourrait être pour nous ou contre nous. Alors, le ce qui pourrait être contre nous, ce n'est pas forcément que les méchants. C'est plutôt la négativité qui peut exister en ce monde et à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous démolit, tout ce qui nous divise, tout ce qui met de la zizanie dans ce monde. Alors, là, c'est une... Déjà, quand ça commence par... Donc, Yahvé dit... Il y a déjà énormément de choses qui est dites, si vous voulez. C'est le pardon qui est premier, la tendresse première. Et puis, s'il parle à Abraham, c'est bien qu'il a quand même un peu écouté, quelque part. Donc, il se dit aussi, cet appel à cette disposition que nous avons, eh bien... de s'ouvrir à la transcendance, finalement, à ce qui est quelque chose qui est comme une source de bienveillance, de pardon, et qui nous encourage, qui est un encouragement. Et peut-être que c'est ça qui manquait, finalement, à Terra pour poursuivre sa route, pour avoir la force du pas suivant, en fait, hein, de l'étape suivante. Alors, le fameux « l'erlera », effectivement, c'est quand même assez important. Hein. Donc, c'est là. Mais je crois que, si vous voulez, c'est un récit de vocation, en fait. Et la vocation, elle peut être universelle. Par exemple, on a la vocation à l'amour du prochain et effectivement, à être voyageur, c'est-à-dire à être en évolution, en cheminement. Mais ensuite, tel ou tel cheminement, c'est des vocations personnelles. Donc c'est à chacun de se dire, bon, à quelle route je suis appelé pour avancer. Alors cette vocation, c'est une proposition de Dieu, de mouvement, de genèse, de fécondité, de bénédiction. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Alors c'est une rupture aussi avec ce qui nous a précédés. C'est toujours une souffrance, celle de l'accouchement, effectivement, de rompre avec ce qui nous semblait une évidence totale, et puis peut-être aussi de faire le tri dans ce que nos parents nous ont laissé pour garder le meilleur fidèlement, cette destination peut-être. Et puis en même temps, vous voyez, le pays que je te ferai voir, c'est un pays que personne n'a jamais vu, donc il avance dans l'inconnu, mais c'est normal parce que personne n'a vécu la vie d'Abraham avant lui, donc de toute façon, évidemment, on ne peut pas le voir d'avance. En même temps, il faut se méfier des futurs dans ces textes de l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a pas de futur en hébreu, vous savez. Il y a le passé et le reste. Donc quand il y a marqué, chaque fois qu'il y a un futur dans l'hébreu, il faut se dire, mais c'est à lire au présent aussi. C'est pour le présent. Tous les textes, ils sont écrits pour le présent, même l'Apocalypse, en fait. Et donc il faut se dire, voilà, que je te fais voir, ou que je te fais aujourd'hui entrevoir, et qu'on verra finalement quand on aura les deux pieds dedans. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. C'est vrai qu'il faut le lire aussi au présent, comme étant une promesse à commencer à réaliser aujourd'hui et maintenant, pour que ça prenne ensuite de l'ampleur et un plein développement.
Alors, effectivement, quand on dit qu'il quitte tout, etc., nous, quelqu'un qui quitte tout, on imagine Saint-François d'Assise, vous savez, qu'il se met tout nu devant son père. Là, on vous dit quand même...
Un jour de Pâques,
voilà,
à l'église, en fait.
Oui, il est devant l'évêque. Devant. Il prit sa femme, tous les biens qu'ils avaient acquis et les êtres qu'ils entretenaient à Haran. Donc, il y a toute la... Là, il y a tout le, voilà, tous les esclaves, toutes les richesses, etc. Donc, c'est assez pittoresque. Et c'est pas tout à fait le tout quitter que l'on trouvera dans l'Évangile. Hein. C'est pas... Simon Pierre qui laisse ses filets et qui part comme ça, bondissant sur les routes poudreuses. Là, il y a quelque chose de plus, encombré, de plus, voilà. Puisque, voilà, tous les biens qu'ils avaient acquis, les êtres, etc. Il y a même une dimension de richesse qui est toujours un signe, d'ailleurs, de bénédiction dans cette culture-là. Donc, finalement, l'arrachement... Et l'originalité de la démarche, c'est plus dans l'idée du voyage. C'est l'idée de partir, de quitter l'installation. Et la tentation citadine, la tentation urbaine existait déjà dans ce Proche-Orient. La civilisation, c'est évidemment la ville, et ce depuis longtemps. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Dieu dit... vers le pays que je te ferai voir. Mais rien dans le récit ensuite ne nous dit que Dieu dit, attention, c'est là, tourne à droite, et puis après à gauche. C'est pas un GPS, hein. C'est même assez fascinant de voir que Dieu ne dit rien, justement. Donc, quelqu'un qui serait un petit peu, vous savez, un peu libre penseur, un peu narquois, un peu goguenard devant ce genre de texte, bah, y a tout pour lui plaire. Parce qu'au fond, ce Dieu-là, qui dit « va vers le pays que je te ferai voir », c'est la porte ouverte à toutes les illusions possibles, puisque après, Abraham fait absolument ce qu'il veut. C'est Abraham qui choisit d'aller en Canaan, et Dieu, on va le voir tout à l'heure, lui dira « bah oui, au fond, c'est là ». Il y a des gens déjà, mais bon, c'est la terre que... Alors on peut se dire « il se fait un petit cinéma, il se raconte », et on peut se dire que nous aussi, on pourrait tous les jours s'inventer... un petit dialogue avec Dieu, où Dieu finirait toujours par bénir ce que nous avons choisi de faire pour nous. D'autant plus qu'il lui dit « va vers toi ». Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Alors, ce qui est fascinant dans ce voyage, où Dieu n'est là que finalement au début, hein, comme une espèce d'impulsion initiale, c'est que Abraham, il faut prendre l'habitude de dire Abraham, va vers l'ouest. C'est très étrange parce que dans tous les textes de la Genèse, avant, ils vont tous vers l'est. Vous savez, dans le jardin d'Éden, les chérubins sont mis à l'est, précisément parce que c'est là qu'est l'arbre de la vie. Donc on imagine que la chute de l'homme et la fuite se fait à l'est. Babel, c'est aussi à l'est. Ils vont à l'est, ils choisissent une plaine.
C'est pas vers le sud, là, non ?
Bah, ici, ils veulent... Quoi donc ?
Là, le trajet.
Ah bah non, Our est très au sud, il va au nord-ouest en fait, puisqu'il va vers... Our est là, comme ça, ça fait comme ça. Donc c'est un voyage vers l'ouest.
Mais de Haran ensuite vers...
Oui, mais oui, enfin, du sud-ouest.
Ah d'accord.
Ah bah en tout cas, le pays de Canaan qui correspond à la bande littorale...
Voyage de Paul.
Mais par rapport à Our, il faut se situer par rapport à Our.
C'est-à-dire que oui, ben il est parti de Our, il est allé à Haran. Oui, mais là, il est à Haran, ensuite il va à Canaan, c'est quand même...
Mais moi, je parle de la démarche initiale.
C'est Terah qui a fait ça, oui.
Qui a fait ça, bien sûr.
Terah a fait un trajet vers le nord-ouest, le nord-est, vers le nord-ouest.
Oui.
Et puis ensuite, Abraham, il fait un trajet sud-ouest. Vers le sud-ouest. Ouais.
Voilà. Mais enfin, il va vers la mer, c'est ça que je veux dire.
Il va vers la mer.
Et c'est presque une contradiction de tous les mouvements... quand on regarde les 11 chapitres, alors je ne les ai pas relus, mais enfin je crois pouvoir dire que tous les mouvements massifs que l'on trouve dans les 11 premiers chapitres se font vers l'Est, vers l'Orient. Ce qui est assez logique d'ailleurs, c'est l'attraction du Levant. Hein. Il y a probablement une polarisation qui est liée un symbole solaire.
Mais souvent, c'est les pêcheurs qui vont vers...
Alors voilà, et c'est...
C'est ce que va faire Lot, d'ailleurs.
Tout à fait. Et il y a quelque chose dans cette démarche vers l'Est qui conduit souvent à une forme de mort ou à une forme d'orgueil. Babel, par exemple. Babel, c'est le refus, au fond, si on repense au récit de Babel que vous connaissez, c'est le refus de la différenciation. C'est la peur de la différenciation et c'est finalement le retour à cette espèce de volonté fusionnelle que je pointais déjà tout à l'heure dans la famille de Terah, c'est-à-dire au fond le mouvement contraire de Dieu. Vous savez, on dit toujours que Dieu crée en séparant. Dieu sépare la lumière des ténèbres, etc. Dieu crée par séparation successive. Bon, ça, c'est un grand classique. Quand on lit la Genèse, on voit bien qu'il crée sans cesse en distinguant et même en séparant l'homme de la femme, etc. Il est du côté de la vie en séparant. Hein. Et la tentation humaine, c'est évidemment de retourner à de l'indifférencié, de l'indéterminé, du confus. Hein. C'est ça, Babel. C'est l'idée, au fond, comme tu disais l'autre jour, à un mariage que nous avons célébré ensemble, c'est l'idée de la pensée unique, la fascination pour la pensée unique. Hein. Tout le monde est prêt à critiquer la pensée unique, mais au fond, il y a en nous une espèce de... Il y a une pente qui fait que, voilà, au sein d'un groupe, on adopte la pensée majoritaire, il y a un mimétisme, etc. Bon. Et effectivement, c'est pour la Bible quelque chose de mortel. Et ça, c'est l'Est, c'est l'Orient. Et donc, il fait... le choix d'aller à l'ouest. Alors moi, c'est peut-être anachronique, mais j'y vois justement quelqu'un qui cherche à être à contre-courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas la ruée vers l'or, là. Ce n'est pas l'ouest, ce n'est pas la Californie. Mais il y a une volonté, évidemment inconsciente, symbolique, de se détourner de la pente naturelle et au contraire d'aller vers l'ouest. Ce qui m'intéresse, parce que l'Ouest est souvent présenté comme... Occident, ça veut dire mort, vous savez. Hein, Occidere, c'est la mort du soleil. Donc Occident... Ah oui, on a souvent dit que Occident... comment ? C'est la chute, voilà. Ça veut dire que c'est cuit depuis le début, Occident. C'est le déclin depuis le début.
Moi, je te vois venir. Tu veux dire que finalement, la Bretagne, c'est l'Éden.
Oui, voilà, absolument. Mais l'Irlande, c'est encore mieux.
Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a marqué, là, c'est, je veux dire, la traduction est un peu dommage aussi, soit en bénédiction, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est soit bénédiction, c'est-à-dire que c'est, il ne s'agit pas d'être dans la bénédiction, il s'agit d'être bénédiction. Et ça, c'est quand même incroyable. Quand même. D'abord, il y a marqué « sois ». C'est un peu comme le « sois un homme, mon fils ». C'est-à-dire qu'il faut d'abord être. Il y a cette promesse que nous... La promesse, je rendrai grand ton nom, c'est ça un peu aussi. C'est-à-dire que c'est la promesse d'une dignité, d'une valeur. Mais « sois », c'est déjà très grand. Parce que si vous voulez, le verbe « être » n'est pas obligatoire. Souvent, ces textes l'utilisent rarement, en fait. Et donc « sois » d'abord, et puis « sois bénédiction ». C'est-à-dire, soit celui qui articule, qui fait vivre, qui met en route, qui ressuscite, qui voilà. Donc c'est quand même un programme incroyable. Et puis en toi seront bénis ou en toi sont bénis toutes les familles de la terre. Là, ça me fait rigoler parce que si vous voulez, souvent on lit voilà Saint Paul, inventeur de l'universalisme, machin. Mais c'est pas possible si vous voulez parce que la notion d'universalisme. De salut qui s'adresse à toutes les nations, il est quand même là. Et donc, par définition, le Christ accomplit les promesses données à Abraham. C'est ce que dit Marie dans le Magnificat. Donc, si vous voulez, c'est pas Paul qui a inventé ça. Faut pas rigoler. C'est dans le projet. C'est-à-dire être Christ, de toute façon, par définition, c'est accomplir les promesses d'Abraham et donc que toutes les nations entrent dans cette bénédiction qui est donnée par Dieu. Et donc le projet de Dieu en Abraham, qui est inscrit dans l'histoire d'Abraham, si je puis dire, c'est ce projet que nous reconnaissons être réalisé en Christ. En fait. C'est ça que veut dire Jésus est Christ, ça veut dire qu'il accomplit cette promesse-là.
Tous les prophètes ne cessent de rappeler ça.
Et les prophètes ne cessent de rappeler ça. Et cette bénédiction, on voit ce qu'elle entend, puisque par exemple dans les grands prophètes, ça veut dire que tous, garçons comme filles, personnes âgées comme les jeunes, les servantes comme les personnes les plus cultivées, seront prophètes. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, chacune et chacun, recevra l'Esprit, Dieu lui donnera sa vocation et fera de la personne une bénédiction pour un grand nombre d'autres personnes. Donc il y a là, je trouve, un projet qui est effectivement immense et qui renvoie profondément à l'évangile du Christ, à ce qu'il accomplit et à ce qu'il nous est promis, sur quoi on peut s'ouvrir finalement, je pense, en méditant les Écritures et en particulier l'évangile.
C'est très intéressant ce que tu dis parce que cette dimension de l'universel dans la Bible, c'est vrai que des gens comme Alain Badiou, par exemple, vous voyez ce philosophe Alain Badiou, grand philosophe marxiste, un des tenants de l'hypothèse communiste, hein, encore aujourd'hui, il y tient mendicus, a écrit un livre sur Saint Paul. Giorgio Agamben aussi, donc Saint Paul, par exemple, intéresse. Et on voit souvent en saint Paul le père de l'universalisme, c'est-à-dire d'une pensée. Alors évidemment, les Français qui ont une culture qui est d'essence un peu universaliste sont à l'aise avec ce type de questionnement. Donc l'idée qu'il y aurait des valeurs que l'on peut étendre à toutes les cultures. Eh bien. L'universel, tel qu'il est pensé par la Bible, c'est un universel concret, c'est-à-dire qu'il passe par la médiation de personnes. C'est-à-dire qu'au départ, il n'est pas du tout universel, puisque c'est un universel qui prend naissance dans un singulier. C'est ça qui est très difficile à comprendre, parce qu'un idéologue pense l'universel, au contraire, comme quelque chose qui est absolument homogène. Hein, l'universel, pour Robespierre ou pour Marx, c'est une sorte de dénominateur commun que l'on peut imposer dans toutes les situations. C'est d'ailleurs aussi le drame d'une certaine pensée française, la pensée des Lumières, c'est de ne penser l'universel qu'à partir de la France, d'une certaine manière, mais sans jamais le dire. Hein. Penser qu'il y a un modèle qu'on peut imposer de façon universelle, précisément, à toutes les cultures, comme s'il était fondé en raison. Voilà. Ça, c'est l'universalisme abstrait. L'universalisme biblique, c'est un universalisme concret, c'est-à-dire qu'il est toujours médiatisé par une personne. Et dans la foi chrétienne, il est médiatisé par le Christ. Mais le Christ est annoncé par d'autres itinéraires qui sont tout aussi singuliers. Et la foi absolument unique d'Abraham, c'est un vecteur d'universel. C'est-à-dire que l'élection d'Abraham, le choix que Dieu fait d'Abraham, c'est une élection pour tous. Et c'est pour ça que Dieu dit dans la septième bénédiction, « En toi seront bénies toutes les familles de la terre, tous les clans de la terre », on dit dans certaines traductions. C'est très important. Sinon, cette vocation, ça n'a aucune valeur, c'est un apanage personnel. C'est comme si, je ne sais pas, un pasteur ou un prêtre disait « Moi, j'ai ma vocation, c'est Jésus et moi, et puis vous ne pouvez pas comprendre, etc. » Vous voyez, on en fait un apanage. Or, ici, c'est tout le contraire d'un apanage. C'est-à-dire que c'est une responsabilité pour tous, pas seulement pour son clan, sa famille, ses ancêtres, etc. Voilà, il y a quelque chose là qui excède la vie même d'Abraham, même s'il vit 200 ans, mais il y a quelque chose qui excède dans le temps et dans l'espace. Toutes les générations et toutes les nations. Vous voyez, c'est à la fois spatial et temporel.
Oui, mais ce singulier qui est en Abraham et puis qui est en Christ, c'est un singulier qui s'adresse à nous aussi. C'est-à-dire que c'est universel, il passe par des... on est tous des petits Abraham, dans un sens.
Et des petits Christ.
Et des petits Christ, avec des petits CH minuscules, mais quand même des petits Christ.
On est christifiés, tout à fait. Alors, je reviens juste, après la notion d'universel, sur la notion de promesse, parce qu'elle est fondamentale. Vous savez, on parle toujours des promesses de la Bible, etc. C'est là, c'est le texte source. Saint Paul dit quelque part, je ne sais plus dans quelle lettre, il dit « Je suis hébreu, fils d'hébreu, pharisien, fils de pharisien, et j'ai reçu la loi, le culte, les promesses, l'alliance, l'élection. » Il fait la liste. Les promesses, c'est ça. C'est pas dans Romains.
En Corinthiens.
Vous savez, par moments, il a des bouffées comme ça d'orgueil religieux. Paul lui dit, quand vous ferez ce que moi j'ai fait, etc. Et là, il dit, au fond, c'est peut-être dans Romains. Oui, parce qu'il dit, moi aussi, je peux me prévaloir d'avoir tout reçu. Et pour autant, je suis prêt à tout quitter. Je suis prêt même à être fait anathème pour le Christ, hein, pour la foi de mes frères juifs. Voilà. Donc, quand il parle des promesses, c'est bien ça. C'est les promesses, ici, les sept promesses qui sont faites à Abraham. Enfin, les sept paroles, avec cinq promesses, en fait. Il y a une septuple déclaration. Et effectivement, et Marc le disait, dans le Magnificat, c'est ça, hein, le puissant fit pour moi des merveilles, comme il, selon la promesse qu'il fit à Abraham, vous vous souvenez, et semini eius, ça me vient en latin, et à sa descendance, Abraham et semini eius, voilà, à Abraham et à sa descendance. Eh bien, c'est précisément ça. Alors très souvent, au catéchisme, on ramène ça à deux choses, à deux promesses. On dit Dieu promet une terre et une descendance. Quand on regarde de près, c'est pas tellement ça, parce que la terre en question, c'est pas quand même très clair, et puis la descendance, étant donné que Sarah n'a pas d'enfant, c'est pas très clair non plus, hein. Mais il y a une promesse de bénédiction. Ce qui vous a frappé, et Marc l'a beaucoup rappelé d'ailleurs, c'est ce mot de bénédiction. Alors, évidemment, si on limite la bénédiction à l'image qu'on en a, en particulier dans l'Église catholique, si vous voulez, le petit gris-gris qu'on fait sur une médaille, etc., on perd quelque chose. Parce que la bénédiction, tu l'as dit, la belacha, c'est l'articulation, c'est déjà l'alliance. Hein. L'alliance, c'est berit, belacha, en arabe, c'est baraka, vous savez, la baraka, et... on est effectivement dans quelque chose de d'éruptif. On est vraiment dans l'énergie de la parole biblique. Il y a quelque chose là de vital qui nous arrache à la mort. C'est ça la bénédiction. Ça nous arrache à la mort. Ça nous arrache à tout ce qui nous enferme dans quelque chose qui est un schéma marqué par voilà le tu parlais des eaux croupies tout à l'heure, mais c'est ça.
Effectivement. Mais d'ailleurs, il y a de l'universel et du singulier dans l'articulation, parce que justement, il y a un attachement. Il y a un attachement, il y a des membres différents, avec une liberté, donc il y a de l'individuel, mais il y a un attachement qui fait articulation. Et donc c'est justement la conjugaison du respect de la diversité, parce que s'il y avait, il y a le bras et l'avant-bras, il faut qu'il y ait cette diversité. Il y a l'œil et la main, il y a cette diversité, dit Paul quand il parle du corps dans Romains 12 ou en Corinthiens 12, et il faut que ça soit articulé. Et c'est la bénédiction qui fait ça. Donc comme tu dis, c'est vital, c'est fonctionnel, c'est fait pour marcher, c'est fait pour qu'ensemble, ça fasse avancer tout le monde. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose qui est quand même, que je trouve assez parlant, quoi, cette bénédiction.
C'est de l'ordre de l'onction aussi. L'onction, vous savez, qui assouplit. Hein. Le Christ, ça veut dire ça quand même. Hein. Christ, ça veut dire qui a reçu l'onction, hein, qui a été assoupli. Qui a été oint, qui a été parfumé, qui a été, voilà, imprégné. Donc je pense quand même qu'on est là dans des images absolument inépuisables. Dans la bénédiction, il y a quelque chose de l'ordre aussi du parfum qui imprègne, qui assouplit, qui met de l'huile dans les rouages, qui fait redémarrer, hein, voilà, qui fait repartir. Je n'ai pas osé dire en marche encore depuis le début, alors je suis aperçu qu'on avait réussi à ne pas le dire sans qu'on s'en soit parlé. Je ne voudrais pas être clivant.
On lit la suite ou...
On lit la suite.
Un épisode croquignolesque.
Alors, ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham.
Qu'est-ce qui nous voudrait bien nous lire? Ah voilà, donc merci beaucoup.
Abraham, alors je relis le titre.
Au verset 6. Ou... Ah oui, d'accord. Oui, oui.
En Égypte.
Ils arrivèrent au pays de Canaan.
Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu dit Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit : C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Là, celui-ci leva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. De là, il gagna la montagne à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et Aï à l'est. Il éleva un autel pour le Seigneur et invoqua le Seigneur par son nom. Puis, d'étape en étape, Abraham se déplaça vers le Néguev. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine sévissait sur le pays. Or, au moment d'atteindre l'Égypte, il dit à sa femme Sarai : Vois, je sais bien que tu es une femme belle à voir. Alors, quand les Égyptiens te verront et diront « C'est sa femme », ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur pour que l'on me traite bien à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. De fait, quand Abraham atteignit l'Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les officiers du Pharaon la regardèrent, chantèrent ses louanges au Pharaon, et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânes et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham pour lui dire : « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit, c'est ma sœur? Et je me suis là, et pardon. Oui.
Je me la suis attribuée en fait. Oui, oui.
Oui. Et je me la suis attribuée pour femme. Maintenant, voici ta femme, reprends-la et va-t'en. Le pharaon ordonna à ses gens de le renvoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait.
Voilà. Alors, comme on parle beaucoup de harcèlement de femmes, voilà, Sarah, qui est trop belle.
Et donc, ça, c'est. Bon, si vous voulez, c'est quand même un peu invraisemblable comme histoire. Parce que si vous voulez. Bon, je veux dire, Sarah, elle a peut-être 80 ans à l'époque. Je veux bien. Enfin, moi, c'est vrai que je connais des femmes de 80 ans qui sont d'une beauté à couper le souffle. Mais comme, je veux dire, comme, bon, c'est peut-être un peu moins sexy que si elle en avait 18, quoi, pour le pharaon, par exemple. Et cette histoire, elle est quand même invraisemblable, parce que Abraham, quand même, qui transforme en prostituée sa femme, en disant, bon, je vais dire que c'est ma sœur, comme ça, je vais gagner plein d'argent et puis on ne me fera pas de mal, c'est moralement quand même tout à fait limite. Et c'est certainement pas un modèle qui est proposé, un modèle moral. Alors, la Bible n'est pas de toute façon un livre de morale, c'est clair. Il ne faut pas se dire, voilà, il faut faire comme Abraham parce que c'est un héros biblique. Absolument pas. La Bible, c'est un livre de questions. Et à la limite, quand les héros bibliques font une bêtise, voire un crime, c'est pas pour nous dire « faites pareil », c'est pour nous dire ça pose question, est-ce que par hasard ce texte ne parle pas un petit peu de moi-même ou interroge différentes façons d'être et de vivre que peut-être je retiens pas, que je cherche à éviter, ou en tout cas, si vous voulez, bon, c'est ce que dit Jésus par exemple quand il parle de par exemple de l'envie de traiter son frère de raca, de débile, on commet un meurtre vis-à-vis de lui. Donc, quand on voit un. Quoi ?
Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose entre le pharaon et la femme de ce Dieu intervient
Ben, plus ou moins, parce que si vous voulez.
Ah ben si, cette femme fut prise pour sa maison.
Et puis, il y a le Seigneur infligea de grands maux au pharaon et de sa maison à cause de Sarah et la femme d'Abraham. Donc, normalement, s'il y a trouble, c'est qu'il y a eu, faute, en fait. Il y a sanction. Alors, est-ce qu'il faut parler de sanction ?
Très bien, pas.
Quoi ? Oui, il ne prévient pas.
Non, mais il va au-devant du crime qui pourrait avoir lieu.
Après, mais au milieu, il y a marqué quand même, si, le milieu, bon, voilà, il y a le pharaon qui couche joyeusement avec Sarai, et puis ça crée des troubles qui fait qu'il y a plein de gens, plein de malheurs qui arrivent, et de troubles et de souffrances sur l'environnement du pharaon. Alors, à mon avis, si vous voulez, ce texte au sens littéral, ça ne fait aucun sens. Donc en général, quand ça fait aucun sens au sens littéral, c'est qu'il faut le lire au sens figuré, ce que ne se prise pas fait de faire les rabbins, les pères de l'Église, depuis 2500 ans que ce texte existe, si vous voulez. En général, on lit, pour le sens allégorique, très souvent, chacun de nous est tous les personnages de l'histoire. C'est le cas, par exemple, pour Cain et Abel, pour Ésaü et Jacob. C'est le cas pour Noé, ses fils, leurs femmes, qui représentent les justes par rapport au reste de l'humanité qui est noyée comme une grande chasse d'eau. C'est le cas voilà, des Hébreux qui s'en vont et puis tous les soldats de Pharaon qui sont noyés. Toutes ces histoires, au sens figuré, sont prises. On est à la fois... la famille des justes et la famille des violents, c'est comme ça que lit, par exemple, l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3, il lit comme ça l'histoire du déluge. C'est comme ça que, par exemple, Paul lit les Hébreux qui s'échappent, qui sont en route, et puis les pharaons et ses armées qui sont noyées par la mer. On est à la fois les Hébreux qui s'échappent et le pharaon qui est noyé. C'est ce que nous disent, voilà, c'est des images du baptême, par exemple. C'est la personne qui est baptisée, pour que ce qui est en elle du juste comme Abraham, vivant par la foi, puisse s'échapper, et que ce qui est en nous de l'ordre de l'humanité violente, de l'humanité pharaonique, puisse être décapé et qu'on soit libéré de cette mauvaise dimension. Donc si on est tous les personnages ici de l'histoire, parce qu'au sens littéral ce serait vraiment épouvantable à bien des titres, d'abord pour le procédé d'Abraham, mais aussi pour la maison du Pharaon qui va mourir, avoir des maladies, etc., comme si Dieu venait punir non pas le Pharaon ou non pas Abraham, qui est vraiment le salaud monstrueux de l'histoire, mais les servantes, la famille du Pharaon qui n'ont rien à voir avec ça. C'est vraiment dégueulasse au point de vue de la justice. C'est un Dieu vengeur, c'est un Abraham qui fait le macro, le proxénète de sa propre femme. Donc c'est impossible. Donc à ce moment-là, si vous voulez, Abraham représente notre dimension de foi. Sarai veut dire princesse, ma princesse. Ça représente notre dignité, peut-être. Après, vous l'interprétez comme vous voulez. Et Pharaon, l'Égypte, c'est une image qui est très connue, puisque par exemple, dans cette libération hors d'Égypte, c'est la libération hors de l'esclavage, mais aussi c'est l'esclavage de quoi ? L'Égypte, ça représente la richesse, ça représente l'industrie humaine. Donc qu'est-ce qui se passe ? Abraham meurt de faim. Il va en Égypte. C'est pas critiquable. C'est-à-dire que ça se fait, on est des animaux, on a besoin de manger pour vivre. C'est peut-être humiliant, mais non, c'est la beauté de l'incarnation. On est un Abraham qui vit par la foi, qui entend la parole de Dieu, qui est mis en route par cette présence de Dieu, cette vocation, d'accord, mais on est aussi un corps qui a besoin de manger. Et donc c'est la famine, et il se tourne s'abriter, se nourrir auprès du Pharaon, auprès de l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, même la foi a besoin de manger à midi pour pouvoir prier le soir. C'est comme ça, c'est l'incarnation. Et donc ce n'est pas critiquable. Par contre, est-ce qu'il faut prostituer sa dignité pour que notre âme vive, c'est pas une bonne idée en fait. C'est pas une bonne idée de la prostituer avec la matière ou de la prostituer tout court. C'est ce que découvre Abraham peut-être aussi, parce que ça crée des troubles dans notre entourage et dans nous-mêmes. Et je pense pas que ce soit une punition de Dieu, c'est juste la conséquence de celui qui fait n'importe quoi, et ben ça crée de la souffrance et de la mort autour de lui. C'est tout à fait désolant pour Dieu. Mais la vie est ainsi quand même. Il y a des conséquences à ce qu'on fait. On n'est pas dans une vie abstraite.
C'est la survie. Enfin, il est question de sa survie aussi.
Donc il est question de la survie. Donc oui, il faut que l'âme ne soit pas éthérée, mais qu'elle elle utilise, elle se réfugie, elle ait besoin de temps en temps, régulièrement, d'aller en Égypte pour se nourrir, mais sans prostituer sa dignité pour autant. Voilà, il faut la foi épouse notre dignité, notre noblesse, et il ne faut pas aller perdre sa dignité dans ce voyage, dans cette articulation avec le monde, dans cette incarnation de notre personne. Peut-être, alors c'est une interprétation que je propose, mais en tout cas, si vous voulez, je ne mettrai pas ma main à cracher sur l'interprétation particulière que je vous propose. Mais à mon avis, la démarche est quand même bien celle-là, d'interroger notre façon, je veux dire, de faire vivre ces dimensions diverses de notre être qui sont la foi et le monde, l'industrie et l'industrie humaine, et aussi Sarai qui pourrait représenter peut-être nos sentiments ou bien notre dignité je sais pas très bien. Ensuite c'est à chacun de trouver le propre sens qui va l'inspirer, mais il y a l'idée quand même ensuite de remonter d'Égypte. C'est ce qu'il y a dans le chapitre 13. Et ça, il faut penser aussi à ne pas s'éterniser ou s'endormir en Égypte, comme vont le faire les Hébreux après l'histoire de Jacob, où ils vont, et de Joseph, hein, où ils vont rester en Égypte pour des siècles. Ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a une sorte d'enfouissement de notre vie dans le matériel, et c'est un véritable esclavage, et c'est mortifère. Et c'est de ça dont les Hébreux sont sauvés en dehors d'Égypte.
Oui, je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs un peu d'humour juif dans ce texte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça commence quand même de façon très sublime. Hein, c'est du Cécile B2000, quoi. Va vers le pays. Enfin, vous voyez, il y a un côté comme ça très, très péplum. Et puis, vraiment sublime au sens où c'est un texte sur l'obéissance, et une obéissance qui n'est pas contredite. Et l'obéissance dans notre tradition, peut-être parce que, je ne sais pas, on est un peu gaulois, libertaire, l'obéissance ne va pas de soi quand même. L'obéissance, c'est quelque chose de coercitif, enfin ça évoque des contraintes. À un enfant, l'obéissance ne va pas de soi. Le mot vient de écouter, vous savez, ça vient de ouïr, hein, audire. Donc dans l'obéissance, il y a bien une écoute, et ici c'est une écoute qui est efficace, c'est-à-dire qu'aussitôt Abraham part. Donc on est vraiment dans le sublime et on est dans l'obéissance héroïque. On voit Abraham ici, ou Abraham, comme un héros d'épopée orientale. Hein. Donc l'idée qu'on retombe un peu ensuite dans le vaudeville, je pense que c'est intéressant. Qu'on ne soit pas uniquement dans le sublime comme on serait dans, je sais pas, dans une épopée germanique, par exemple, vous savez, où on se prend vraiment très au sérieux. Et là, tout d'un coup, eh ben, il y a des réalités qui se rappellent. Alors, oui, à propos du sublime, vous savez, tout à l'heure, j'évoquais Kierkegaard, le philosophe danois Kierkegaard, parce que pour lui, enfin, c'est une petite parenthèse, mais pour lui, Abraham, c'est la figure, justement, de ce qu'il appelle le stade religieux de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez ça chez Kierkegaard, donc grand philosophe de l'époque romantique. Il y a trois stades dans la vie, et on passe les trois stades. Il y a le stade esthétique, c'est celui de Don Juan, c'est-à-dire on veut goûter à tout, on veut sentir les choses, on veut consommer le monde. Et effectivement, si on est enfermé dans ce premier stade, on reste un adolescent toute sa vie et on ne grandit jamais, on reste immature comme Don Juan. Donc ça, c'est le stade esthétique. Ensuite, il y a le stade éthique, c'est ce qu'il appelle le stade du fonctionnaire, mais le mot n'est pas péjoratif sous sa plume. Dans la culture danoise, ça veut dire voilà, celui qui accepte la vie, qui accepte de ne plus papillonner partout, mais d'inscrire sa vie dans un choix de vie. Voilà, de choisir un métier, de choisir une femme ou un époux, d'avoir des enfants, de choisir, donc de réduire le champ des possibles. Ça, c'est le deuxième stade qu'il appelle le stade éthique. Et en général, la plupart des gens, on reste là. Il y a le stade esthétique, puis le stade éthique. C'est un deuil à faire, mais c'est un deuil en général qui se passe plutôt bien, enfin, si on n'est pas trop névrosé. Et pour Kierkegaard, il y a le troisième stade, qui est le stade religieux. Et le stade religieux, pour lui, la figure, ça n'est pas Don Juan, évidemment, ça n'est pas non plus le fonctionnaire, c'est... le fonctionnaire, il lui donne un nom, mais c'est un personnage de roman danois que personne ne connaît, donc... et le troisième stade, pour lui, c'est le stade d'Abraham. Voilà. Le stade religieux, c'est le stade d'Abraham, c'est le stade où on est seul face à Dieu. Et même si on est évidemment avec d'autres, si on est marié, si on a une famille, etc., il y a ce moment où on est dans ce vertige, hein, où le sol se dérobe un peu sous nos pieds, c'est-à-dire qu'on découvre qu'on est seul face à... Un peu comme Abraham, c'est-à-dire qu'il y a une espèce... On est un peu à l'aveuglette. On avance vers quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Et ça, pour Kierkegaard, c'est le sommet. C'est-à-dire que Abraham, par exemple, lorsque Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils, voilà, il va le faire. Et c'est pas du tout par bêtise ou par orgueil en se disant ah bah c'est quand même mon fils qui l'a choisi. Non, c'est il y a une espèce de confiance. Vous voyez, il y a quelque chose qui confine à la folie, hein, qu'on a chez les grands mystiques. Les grands mystiques confinent souvent à des pathologies, bien sûr. Bien sûr, Thérèse d'Avila est hystérique, bien sûr, Ignace de Loyola est paranoïaque, bien sûr. Mais c'est pas ça qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de beaucoup plus fort que le ricanement de celui qui va dire gna gna gna. Voilà. Il y a quelque chose, justement, et c'est ça que nous essayons, au fond, de définir ensemble. C'est ce qu'on appelle la foi. Marc le rappelait au début, hein, saint Paul dit, voilà, Abraham a été juste par la foi, parce qu'il a cru, parce qu'il a été fidèle. Mais on ne sait pas vraiment, il y a une dimension nocturne. Il y a quelque chose, voilà, qui excède nos vies, nos calculs, nos schémas, tout ce qui nous restreint, notre raison. J'ai lu un beau texte de Bergson là-dessus, justement, où il montre que il y a, voilà, il y a quelque chose qui excède et on n'arrive pas à le nommer, et ensemble on essaye de le nommer, et ces textes nous aident à le nommer. Alors tout ça c'est sublime, et tout d'un coup on retombe effectivement dans cette espèce d'opérette très Second Empire avec cette histoire de voilà. Et de fait c'est intéressant parce que il arrive dans le pays que nous appelons la terre promise, etc. Bon. Mais au fond, il y a plein de problèmes. Ben, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas envie forcément, vous voyez, parce qu'ils dressent un hôtel à Sichem, ils dressent un hôtel à Bethel, etc. Ce sont des sites importants d'ailleurs, hein. Mais au fond, il y a quand même des gens qui sont là depuis longtemps, etc. Ensuite, il y a la famine, donc c'est aussi un problème. Il y a des problèmes matériels, comme disait, on n'est pas sans cesse dans une espèce de nuage d'encens. Il y a un moment, effectivement, il y a des questions concrètes, et du coup, on a l'impression tout d'un coup que Dieu ne joue plus aucun rôle, d'ailleurs. Dieu était là au début, c'était sublime, magnifique, et puis tout d'un coup, ben, voilà, il faut sauver sa peau, donc on part en Égypte. Et alors en Égypte, tu avais raison de le dire quand même, parce que dès que vous voyez le mot Égypte dans la Bible, il faut qu'il y ait un petit voyant qui s'allume, parce que l'Égypte, c'est tout de suite, c'est l'idole, c'est l'idolâtrie. Et tu l'as dit, c'est l'industrie humaine, c'est-à-dire c'est l'humanité qui est livrée à ses propres pouvoirs. Aujourd'hui, ce serait des tas de choses. Ce serait la technologie, ce serait le management, ce serait des tas de choses. Hein,
mais c'est pas tout, mais négatif quand même.
Ah, mais c'est pas négatif.
Oui, oui.
Ah, mais justement, c'est pour ça que je dis idole avec des pincettes, parce que idole, c'est très moralisant. Et c'est l'industrie humaine.
Donc ça peut être idolâtré. Ah, et ça, là, c'est un
absolument,
vrai problème.
Absolument, absolument.
Sinon, c'est commode.
Mais ça peut, c'est la tentation d'une horizontalisation.
Oui. Hein.
De réduire justement ce que je disais tout à l'heure, cet excès. De le réduire à quelque chose, voilà, qui est monolithique et où la vie ne circule plus.
Peut-être pour terminer, on pourrait lire simplement les versets 14, la fin, où Dieu réapparaît. On arrive donc au but quand il se sépare avec Lot, et où finalement il y a la promesse de multiplication, la promesse de.
Il reste 2 minutes.
Il reste 2 minutes, donc je pense que juste. Oui, il reste 2 minutes, donc on peut lire ça. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, très bien.
Donc j'ai voulu. Le Seigneur dit à Abraham, c'est verset 14 hein, du chapitre 13. Après que Lot se fut séparé de lui, bon, Lot c'est un peu le anti-héros, si vous voulez, de l'histoire.
C'est Sancho Panza.
Lève donc les yeux, et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que, si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi. Parcours le pays en long, en large et en travers, j'allais dire, car je te le donne. Abraham vint avec ses tentes habiter aux chênes de Mamré, qui sont à Hébron, et il y éleva un autel pour le Seigneur. Donc, moi je trouve d'abord c'est rigolo. Lève les yeux et vois autour de toi. Là aussi, c'est pas vraisemblable au sens littéral. Si on lève les yeux, je peux pas en même temps regarder ce qui est à gauche, à droite et au milieu. Donc, c'est difficile. Sauf que là, évidemment, au sens figuré, ça veut dire le voir en regardant vers le haut, c'est-à-dire dans l'élévation, en le regardant avec le regard d'en haut, finalement. Donc il y a cette exploration, là encore, de la terre de la promesse. Alors on peut prendre ça comme un appel à voir le monde qui nous entoure, on peut voir ça comme un appel à explorer l'état, la vie, ce que nous sommes, voilà, aussi, à l'explorer et de voir eh bien, qu'on est chez nous dans notre vie, qu'on n'y est pas voilà, qu'on y a droit finalement à exister en ce monde, à être ce que nous sommes, à être heureux et à être dans une fécondité. Alors l'image comme la poussière de la terre, c'est comme la poussière, donc c'est un appel là aussi, je pense, à l'incarnation, si vous voulez. Après, plus loin, la promesse est redite, c'est comme les étoiles du ciel, ben, c'est peut-être les deux à la fois, si vous voulez. Hein. Et puis, Abraham reste avec des tentes, donc disponibles pour se remettre en route, il ne fait pas des maisons en béton armé. Et puis, il élève un autel pour Yahvé, et donc... C'est la louange, vous voyez, c'est pas pour séduire un Dieu pour qu'il nous donne la vie, c'est prenant conscience peut-être de la vie que Dieu nous donne, sa bénédiction, ben, être dans la louange, être dans la gratitude, être dans la reconnaissance, mais juste par gratitude finalement, parce qu'il a, à ce moment-là, il est presque comblé finalement, il n'y a plus qu'à attendre que... Les enfants arrivent. Bon, ça va prendre du temps, là aussi, ça va être compliqué. Bon, peut-être faut pas vous retenir plus longtemps que ça, parce qu'on essaye de tenir les horaires pour ceux qui habitent peut-être loin. Donc nous vous proposons de nous retrouver...
Le 15 novembre, autour d'une autre grande figure, là c'est les people. Hein.
Donc là c'est Moïse. Et donc c'est aux 4 rues de l'Oratoire, si vous voulez, donc c'est pas très loin, mais c'est en face de l'église de l'Oratoire, dans la petite rue.
Voilà, et bonne fête de la Toussaint d'ici là.
Bon retour et merci pour ce bon moment passé avec vous.
Merci.